L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Eh bien, l'Afrique dans tous ses états pour cette semaine, c'est toujours avec Marie-Claude Siakezak. Bonjour.
Bonjour, Guylaine.
Et puis, c'est à nouveau avec Thibaut Bluy, qui était notre invité la semaine dernière. Bonjour, Thibaut.
Bonjour, Guylaine. Bonjour, Marie-Claude. Et bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour cette deuxième semaine.
C'est partagé. Alors, la semaine dernière, nous avons longuement évoqué votre parcours, votre arrivée au Burkina en tant que journaliste, vos propos sur la francophonie et votre découverte de cette langue partagée par des millions de personnes autour de notre espace français. Et vous avez publié l'Observateur Toubabou, un reporter français au Burkina Faso, avec une préface d'Edouard Ouédraogo et un magnifique dessin de Damien Glaise. Alors parlons, continuons à parler un peu de cette édition, l'Observateur Toubabou, Thibaut Bluy.
Effectivement, donc le dessin de Damien Glaise, donc qui m'a fait l'amitié de produire ce dessin qui reprend la forme du Burkina Faso avec un petit peu des petits items pour rappeler les différents événements qu'il y a eu en 2015-2016 que j'ai eu la chance de couvrir directement. Donc il m'a mis discrètement aussi sur avec ma moto, ma fameuse Krypton, avec
oui,
laquelle
quand même,
je me déplaçais. Du coup, il m'a fait apparaître sur la couverture. Donc, merci à Damien Glaise qui est chroniqueur sur Jeune Afrique notamment, et puis qui est anciennement du journal du jeudi, l'hebdomadaire satirique du Burkina, qui qui collabore avec diverses publications internationales. Et puis surtout, grand merci à Edouard Ouédraogo, le doyen de la presse burkinabé, voilà. qui a créé le journal L'Observateur Palga en 1973 et qui a aujourd'hui 81 ans, qui continue d'être le directeur de publication du quotidien. Et qui était un petit peu visionnaire, parce qu'à l'époque, en 73, replonger dans le contexte, il y avait beaucoup de médias d'État, etc. Et c'était le premier grand quotidien privé, qui a lancé, comme on le rappelait, on l'évoquait la semaine dernière, cette tradition un petit peu de grands reportages et de journalisme au Burkina Faso, et qui a fait aussi qu'un certain sentiment démocratique et de liberté de la presse, en tout cas, s'est répandu au Burkina. C'était un petit peu un pionnier, et donc j'étais très honoré qu'il accepte de préfacer le livre pour le remettre un petit peu dans son contexte, dans une perspective historique. Et il l'a fait de façon très flatteuse en intitulant la préface Zola Ouaga.
Voilà, Zola Ouaga, oui, parce que vraiment... Et je dois dire que quand on lit cette préface, on se dit que la référence à Zola n'est pas du tout surfaite. Au contraire, je veux dire, grande plume, monsieur Edouard Ouédraogo. Et donc, je vais simplement lire la conclusion. Hein. Pour toutes ces raisons, l'Observateur Toubabou est un vademécum pour jeunes reporters, un riche document d'archives pour les historiens et un savoureux voyage au cœur du pays des hommes intègres pour les lecteurs amoureux de mots et de récits où palpite la vie, fragile et tenace, comme une algue sur un rocher. Là, c'est une référence à Marie, non, Fatou Diomé. Dans le ventre de l'Atlantique, j'avais parce que cette phrase, et c'est vraiment une préface extraordinaire. Et je dois dire que si vous avancez un peu dans le livre, troisième chapitre qui s'appelle Tropicalisation.
Premier chapitre, qui s'appelle Tropicalisation.
Il y a quand même un petit morceau d'anthologie qui est la lettre. Qui est la lettre de demande de la candidature spontanée.
Qui est authentique, hein.
Voilà, oui, je m'en suis douté. Et vraiment, au début, on se demande si on est dans un récit ou si on est dans une demande de candidature. Mais franchement, c'est aussi un petit morceau d'anthologie. Donc, dès les premières pages, vous rentrez dans ce livre. Et puis après, évidemment, vous rentrez, vous atterrissez beaucoup plus loin avec tout ce qui est cité, notamment tous les événements. Donc, voilà, je vous encourage à lire et à plonger dans la vie qui palpite au sein du Burkina grâce à Thibaut.
Effectivement, et du coup, c'est peut-être une transition vers l'actualité,
oui, tout à fait.
L'actualité récente avec le coup d'État donc, du 24 janvier 2022, cette fois-ci, mais qui faisait beaucoup penser aussi au dernier, qui rappelait, en tout cas dans l'ambiance un petit peu, les événements du coup d'État d'il y a 7 ans, presque 7 ans plus tôt, donc en septembre 2015. Et du coup, après ce premier chapitre dans le livre, ce premier chapitre Tropicalisation, on en vient directement à entrer dans le vif du sujet avec moins de 2 mois après mon arrivée sur place, le coup d'État du général Diendéré. Et donc j'avais prévu de vous lire un petit passage pour, je pense que c'est un bon prélude à la discussion pour après évoquer les différences et les similitudes par rapport au coup d'État qui s'est déroulé il y a quelques semaines. Donc là, pour vous replacer dans le contexte de l'extrait, on est au deuxième jour du coup d'État. Donc le premier, on n'a pas été vraiment situé sur les intentions des mutins. On a vu qu'il y avait des militaires dont beaucoup portaient la tenue du régiment de sécurité présidentielle, la garde prétorienne un petit peu de Blaise Compaoré, l'ancien président, qui n'avait pas été dissous à sa chute, et donc qui essayait de disperser les manifestants, et puis qui avait été appelé par Smoky, dont on a entendu un extrait la semaine dernière de sa mobilisation, son appel à la mobilisation, etc. Et du coup, là, on est au deuxième jour du coup d'État, le 17 septembre 2015, et on est aux alentours de 7h du matin. Et donc là, je vous propose de vous plonger directement dans le contexte. Alors, sur le petit écran que j'avais allumé en fond, les programmes viennent brusquement de s'interrompre. Un kidam en treillis et casquette moutarde apparaît sur le plateau du journal télévisé. L'actualité rattrape l'histoire. Les forces patriotiques et démocratiques, alliant toutes les composantes de la nation et réunies au sein du Conseil national pour la démocratie, ont décidé de mettre un terme au régime déviant de la transition. Durant 5 surréalistes minutes, ce lieutenant-colonel médecin énonce le diagnostic des mutins. La transition s'est progressivement écartée des objectifs de refondation d'une démocratie consensuelle en adoptant, à des fins personnelles et de musellement, des lois sur la presse et l'armée, ainsi qu'un code électoral taillé sur mesure pour des individus et décrié par les instances et les hommes de droit. La thérapie est draconienne, destitution du président, dissolution du gouvernement et du parlement transitoire, lancement d'une large concertation devant mener à un suffrage inclusif et apaisé. 7h23, les clips musicaux réinvestissent l'antenne aussi abruptement qu'ils l'avaient désertée. C'est donc ça, un coup d'État. Donc on voit bien la similitude, donc c'est sur la forme, avec ce qui s'est passé 6 ans et demi plus tard, avec la proclamation du coup d'État du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Et donc on voit bien des militaires qui interrompent les programmes sur le plateau du journal télévisé. En revanche, le diagnostic n'est pas exactement le même, puisque là, c'est pas le régime de la transition, c'est le régime de Roch Kabore qui a été pointé du doigt, mais la thérapie finalement, les dispositions qui sont prises sont les mêmes, avec destitution du président, enfin démission forcée, et puis dissolution du gouvernement, de l'Assemblée, etc. Et puis mise en place d'une transition. Et donc là, par contre, les réactions ne sont pas les mêmes cette fois-ci, parce que là, la dernière fois, au bout de 7 jours, le coup d'État finalement avait échoué avec une mobilisation populaire qui était, en fait, on était un an après finalement la chute de Blaise Compaoré, donc les 30-31 octobre 2014. Et là, après l'année de transition, beaucoup de Burkinabés disaient non, il faut que cette transition aille à son terme, mais on ne s'est pas mobilisé, il n'y a pas eu des morts pour rien au moment de l'insurrection l'année dernière, pour que finalement, on essaye de remettre l'ancien régime, puisque c'est le général Diendéré, qui était l'homme lige de Blaise Compaoré, qui était son chef d'état-major particulier, qui du coup avait pris la tête du coup d'État et voulait plus ou moins réinstaurer l'ordre ancien, enfin de façon non avouée, mais c'était un petit peu ça. Et beaucoup, en tout cas, des manifestants l'ont perçu comme tel et se sont mobilisés. Et puis, avec sous la pression diplomatique, avec une délégation de la CDAO qui était venue pour discuter, etc. Finalement, le coup d'État n'avait pas pris. Et au bout d'une semaine, il y a cette séquence surréaliste où le général Diendéré, un peu acculé dans ses retranchements, vient dire s'avance devant la presse. Je me rappelle, c'était après la cérémonie de remise en selle de la transition, où en fait les choses n'étaient pas du tout jouées, etc. Mais grand raout avec toutes les autorités coutumières, militaires, paramilitaires, etc. Et puis les chefs d'État de la CDAO qui venaient pour remettre en selle la transition. Mais en fait, en coulisses, rien n'était joué. Et puis là, le général Diendéré vient discuter après la cérémonie officielle avec essayer de négocier un petit peu les conditions de sa reddition, etc. Et nous, je me rappelle qu'avec la presse, on était quelques-uns à attendre dans la zone mixte un petit peu. Et là, on voit le général Diendéré s'avancer. Et puis, il déclare à la presse « Je suis désolé, ce n'était pas une bonne idée. Il y a eu des morts, je le regrette. Il y a eu des pertes humaines et matérielles, je le regrette, etc. Ce coup d'État n'était pas une bonne idée. » Et bon, après, il a dû quand même rendre des comptes à la justice, parce que c'est un petit peu facile de juste faire amende honorable. Mmh. Mais en tout cas, le coup d'État avait échoué au bout de 7 jours la dernière fois. Et là, cette fois-ci, on a bien vu que les conditions étaient complètement différentes, où là, il y a eu une sorte de consensus, ou en tout cas de mise devant le fait accompli, où beaucoup de... Donc, il y a eu quelques manifestations spontanées. Alors, il faut bien se garder d'analyser des images et de grossir certains traits, etc. Mais en tout cas, il y a eu des manifestations plus pour soutenir les militaires cette fois-ci, plutôt que pour protester contre le coup. Et puis même la classe politique, les mouvements citoyens, les organisations de la société civile, les fameuses OSC comme on les appelle, finalement ont un peu pris acte du coup d'État et ne sont pas forcément élevés parce que y a contre cette manœuvre, parce que aussi depuis 6 ans, il y a une situation sécuritaire que le pouvoir Kabore n'avait finalement pas réussi à endiguer, et donc avec ce dont on évoquait la semaine dernière, 1,5 million de déplacés sur un pays de 20 millions d'habitants, des zones au nord et à l'est qui sont plus du tout contrôlées par les forces de sécurité, et puis plus de 2000 morts, et donc avec notamment le massacre d'Inata,
qui a été terrible en novembre
2021, avec 53 militaires qui se font massacrer dans le nord du pays, et donc après, même s'il y a eu des changements un petit peu dans l'état-major de l'armée, des têtes qui sont tombées, mais pour la population, ce n'était pas suffisant, pour les militaires non plus, et ce qui explique un peu ce coup d'État, ce ras-le-bol, et une impression de déconnexion aussi des élites et du pouvoir par rapport à la situation sécuritaire et vraiment à la situation de terrain qui ont duré finalement jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute presque de la présidence de Roch Kabore, où on le voit, alors qu'il y a des mutineries, il y a des coups de feu qui sont échangés dans les casernes militaires du pays, Louis envoie un tweet pour soutenir les étalons, l'équipe nationale de foot qui joue le soir en 8e de finale à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc on voit un certain décalage entre ce qui se passe sur le terrain et puis ce qu'il y a en tout cas dans la communication, pour pas dire dans la tête du président à ce moment-là. Donc on voit finalement cette différence. Et puis aussi la presse, on parlait tout à l'heure donc des partis, de la réaction des partis politiques, de la population, de la société civile, mais aussi de la presse qui a été un petit peu différente par rapport à 2015, où la presse s'était quand même majoritairement insurgée contre la forfaiture du général Diendéré, qui était qualifié de félon à l'époque. Et là, cette fois-ci, où je me souviens de... C'est un bon baromètre, je trouve, l'éditorial souvent de l'Observateur Palga, parce que c'est un journal qui est assez mesuré, et à l'image de son fondateur, qui suit depuis un demi-siècle les périples, les soubresauts politico-médiatiques du pays. Donc là, ils ont titré leur éditorial après le coup « Aïwa ». Qui veut dire en Dioula un petit peu, si vous le dites, c'est une sorte de... ils disent qu'ils ne soutiennent pas officiellement le coup d'État parce qu'ils estiment que c'est un coup d'arrêt au processus démocratique et finalement, c'est peut-être pas forcément une solution, qu'on va peut-être revenir en arrière, c'est beaucoup de temps perdu de relancer une transition, etc. Mais soit que finalement, la situation, l'impuissance du pouvoir politique à résoudre le problème terroriste, a conduit à cette situation qui est acceptée qui donne un petit peu un blanc-seing aux militaires pour essayer de voir ce qu'eux peuvent faire à la tête du pays.
Et d'ailleurs, pour parler de ça, il y a une chose qui me vient à l'esprit, notamment par rapport à 2015, c'est que les derniers temps, il y a eu des bruits qui ont couru qu'on allait faire libérer Diendéré. Et très rapidement, là, il y a quelques jours, c'est tombé en début de nuit. Il a été fait un communiqué officiel qui a bien dit que le général Diendéré ne serait pas libéré. Comme quoi, quand même, il y avait quand même une persistance dans le fait de différencier les deux événements. Et puis aussi, il y avait quand même eu des mouvements, un peu des mouvements de rue, des mouvements de foule, un peu de mécontentement, etc. Il y a des gens qui en avaient ras-le-bol. J'ai entendu aussi des journalistes parce qu'il y avait des coupures d'Internet.
Et des réseaux sociaux aussi.
Des réseaux sociaux, etc. Facebook, voilà, exactement.
Et des manifestations de l'opposition.
Voilà, exactement. Et donc, il y avait quand même des signes de ras-le-bol. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a une différenciation à faire, c'est une différence à faire, et c'est sûr que ça a été la peur au départ de beaucoup de gens.
Effectivement, donc... mais après le général Diendéré pour le putsch du coup de 2015, le procès a duré, mais finalement et le général a fait appel, mais il a été condamné à 20 ans de réclusion. Et puis le général Bassolet aussi qui est accusé de complicité, d'avoir été aussi à la manœuvre dans ce coup d'État de 2015, il a été condamné à 10 ans. Et puis après il y a eu d'autres peines qui ont été prononcées, mais la justice a été rendue en tout cas. Peut-être imparfaitement, en tout cas, mais il y a un appel en suspens. Mais en tout cas, le général a été condamné. Et effectivement, comme vous le disiez, Marie-Claude, il y a aussi eu une peur que le coup d'État, de cette fois-ci, du lieutenant-colonel Damiba, aboutisse à un retour de l'ancien régime. Et en fait, très tôt, le lieutenant-colonel et la junte a envoyé des messages assez clairs pour dire que ce n'était pas le cas et qu'il fallait surtout consolider les acquis, de l'insurrection populaire de 2014 et les acquis démocratiques. Et si on regarde un petit peu, on peut se rassurer en regardant un petit peu le parcours du lieutenant-colonel Damiba, puisqu'il faisait partie du régiment de sécurité présidentielle, la garde prétorienne de Blaise Compaoré. Mais par contre, en 2015, sa position est intéressante, puisqu'il a refusé de se rallier au coup d'État du général Diendéré. Et donc, ce qui lui a gagné une certaine aura auprès de la population, etc. Et qui a fait que le coup d'État avait échoué en 2015, c'était un facteur important, le non-ralliement d'une grande partie de l'armée, de la majorité de l'armée, l'initiative isolée du général Diendéré et puis du RSP, le régiment de sécurité présidentielle. Mais du coup, cette fois-ci, non, il n'y a pas eu... là, vraiment, c'est plutôt une transition. Et ce qu'a dit dans sa première adresse à la Nation, le lieutenant-colonel Damiba, désormais chef de l'État, il a dit que la priorité, c'était vraiment de restaurer la paix et la sécurité dans le pays. Que c'était vraiment pour ça qu'ils avaient pris... Ils avaient pris leur responsabilité en menant ce coup d'État, et puis qu'après, il y allait avoir une transition vers l'ordre constitutionnel, pour un retour à l'ordre constitutionnel. Alors après, il s'est bien gardé de mentionner la durée. On a vu qu'au Mali, c'est le chronogramme, le calendrier, qui avait un petit peu posé problème avec une transition prévue de 5 ans. Donc là, moi, les sons qui me reviennent, c'est plutôt, on va vers une transition de 1 an et demi à 2 ans, 18 à 24 mois. Après, à voir, pour l'instant, c'est en discussion. Et ce qui fera un petit peu, ce qui décidera un petit peu de l'avenir de ce coup d'État, et c'est un petit peu comment il va être perçu et soutenu internationalement, parce que il y a des grosses sanctions qui ont été prises contre le Mali par la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, l'organisme sous-régional. En revanche, là pour le Burkina, pour l'instant, ils ont suspendu le pays des instances, mais ils ont refusé pour l'instant de prendre les premières mesures qui sont en général le gel des avoirs à l'étranger des putschistes et puis diverses mesures qui visent les membres de la junte. Et puis après, ça peut aller jusqu'à des sanctions comme on a connu au Mali avec un embargo sur le pays, fermeture des frontières, vraiment une mise au ban de la communauté internationale ou en tout cas de la communauté sous-régionale. Et là, on n'en est pas encore là. Il y a des émissaires qui ont été envoyés, des états-majors de la sous-région et puis des délégations diplomatiques pour essayer de connaître les intentions profondes du nouveau régime, de cette nouvelle junte au pouvoir. Et pour l'instant, on est un petit peu dans cette attente. Les pourparlers sont menés. Et puis bientôt, vont se réunir de nouveau les chefs d'État de la CEDEAO pour décider si oui ou non il y aura des sanctions. L'Union africaine a décidé aussi de suspendre le Burkina Faso de ses instances. Et puis l'ONU, l'Union européenne, la France ont condamné le coup d'État, cette prise de pouvoir par la force pour renverser un président démocratiquement élu. Mais bon, ils essayent de composer aussi avec la junte pour essayer de trouver des solutions et puis aussi assurer la sécurité du président déchu, puisqu'il n'a toujours pas été libéré. Donc, c'est un petit peu une situation de transition, à voir quels seront les premiers vrais actes de la junte militaire. Mais donc, pour l'instant, la situation est différente et on semble aller vers l'institutionnalisation un petit peu de ce régime pour une nouvelle transition. Finalement, beaucoup disaient que la transition de 2014-2015 avait été dévoyée parce que pas assez inclusive, parce qu'elle n'était pas allée assez loin. Là, il faudra tirer les enseignements pour voir pour que cette transition-là aboutisse à quelque chose de plus pérenne et effectivement mettre fin à cette spirale de coup d'État, puisque si on regarde l'histoire du Burkina Faso, depuis 1960, il y a eu une seule transition entre deux civils, et c'était après un an de transition, Michel Cafando avait remis le pouvoir à Roch Kabore, qui avait été élu démocratiquement. Et puis, mais c'est la seule transition pacifique, et c'est pour ça que je parle. J'avais couvert cet événement de près en 2015-2016, donc je le raconte dans mon livre en détail. Mais après, il y a une incapacité où là, on voit bien que le président Kabore, un an après sa réélection, puisqu'il a été réélu en novembre 2020, devant son incapacité à répondre aux attentes sécuritaires, a finalement été démis de ses fonctions par l'armée.
Avez-vous l'intention d'aller au Burkina ?
Alors, j'y suis retourné l'année dernière, en novembre 2020, pour couvrir les élections. Et là, pour l'instant, je n'ai pas de projet d'y retourner dans l'immédiat. Mais moi, ce qui m'avait frappé la dernière fois, c'était... j'étais pas retourné en 4 ans. Et de retourner directement sur place avec le contexte qui a évolué, c'est de voir... la situation sécuritaire qui avait vraiment évolué, puis les différentes mesures qui étaient prises, et le fait que en dehors de Ouagadougou, des zones sécurisées, c'était difficile de sortir et d'aller au-delà, parce que c'est des zones instables. Il y a des attentats qui se produisent parfois à moins de 200 km de Ouagadougou, donc au moment des élections, il y a quand même eu plusieurs centaines de bureaux de vote qui n'ont pas pu ouvrir, parce que surtout dans le nord et dans l'est du territoire, parce que il y avait une vraie menace terroriste. Alors par contre, moi je ressentais quand même que Ouagadougou vivait dans une certaine bulle encore, parce que Ouagadougou n'a été touché entre guillemets que par 3 attentats directement. Donc le premier, du 15 janvier 2016 au Café Cappuccino, et donc que j'avais couvert et que je raconte dans le livre. Après, il y en a eu un deuxième sur la même avenue, Kwame Nkrumah, les Champs-Élysées d'Ouaga, enfin la plus belle avenue d'Ouaga, comme ils l'appellent,
pas
à côté
de
l'aéroport.
Pas du monde quand même, mais de Ouaga.
Voilà, au Café Aziz Istanbul. Et puis après, en 2017, l'attaque de l'état-major des armées et puis de l'ambassade de France. Donc, c'est les 3 attaques qui ont visé la capitale. Mais sinon, les attentats se perpétuent plutôt dans le nord et dans l'est, et dans des zones plus reculées. Et à Ouagadougou, on reste dans une certaine bulle qui, là, vient d'éclater manifestement, puisque les troubles sécuritaires s'invitent aussi à la capitale.
Tout à fait. Aux dernières nouvelles, d'ailleurs, il est très difficile maintenant, voire interdit, de se déplacer entre Ouaga, par exemple. Moi, j'ai une amie dont sa maman vit en pays Samo, par exemple. On ne peut plus y aller, et d'ailleurs, c'est dangereux. Enfin, voilà, donc c'est en train, actuellement, c'était en train vraiment de se gâter partout, quoi. Pour l'instant, l'axe Ouaga-Bobo n'est pas touché.
Oui, on touche du bois.
Encore qu'il n'y a que des coupeurs de route de temps en temps, ou des choses comme ça, ou des graves accidents.
C'est un peu on espère. De repli.
Oui.
Mais c'est vrai que là, il ne faut pas oublier un élément important. Moi, j'essaye de l'analyser un petit peu à la fin de la première partie de mon livre, sur un petit peu d'autres sujets, en élargissant à d'autres sujets d'actualité. Et il ne faut pas oublier qu'il y a une grosse fracture dans la société burkinabé, entre une certaine élite citadine lettrée qui représente à peu près 30% de la population, et puis une majorité analphabète. Il y a quand même deux deux adultes sur trois qui ne savent pas lire, pas écrire au Burkina Faso, et 70% de la population qui est rurale, donc qui vit beaucoup de l'agriculture dans les zones rurales. Et donc, cette fracture, elle s'est illustrée. Moi, j'ai pu m'en rendre compte de plein fouet au moment, notamment, là, moi, je l'avais vu directement en 2016, au moment de la constitution, ou en tout cas, des premières tensions qui apparaissaient avec les milices d'autodéfense, les fameuses Kogluehogo. Donc, c'est des, beaucoup dans les zones rurales, des citoyens, donc des éleveurs, des agriculteurs qui s'organisaient pour se défendre parce que bah, au Burkina, il y a des zones assez, une zone, une partie assez importante du territoire qui n'est pas contrôlée par les forces de sécurité et où les forces de sécurité et de défense n'étaient pas directement présentes. Et donc, bah, la population, excédée de se faire voler ses récoltes ou son bétail, son gagne-pain, en fait, disait bah, plutôt que de mourir de faim si on nous pique ce gagne-pain, on va faire justice nous-mêmes puisque il n'y a pas de force de l'ordre pour le faire. Donc, elles s'organisaient et puis elles arrêtaient les voleurs et elles commençaient à les torturer, etc. Et à se faire justice elles-mêmes. Et sauf qu'à un moment, il y a eu une tension puisque les représentants de l'État de droit ont dit bah, c'est pas possible de tout faire ça dans un État de droit. Donc, elles ont arrêté les gens qui avaient arrêté les voleurs. Oui, alors là, pour la population, c'était un peu ubuesque quand même en disant bah, vous faites pas votre travail et vous arrêtez ceux qui arrêtent. Et donc là, il y avait eu des tensions et c'était à Fadan Gourma en mars 2016. Et là, c'était presque canon contre canon entre les milices qui étaient venues d'un peu tout le pays, qui commençaient à se structurer à l'époque et qui représentent plus de 40 000 soldats aujourd'hui, ce qui est quand même considérable. Et du coup, qui ont convergé vers Fadan Gourma pour mettre la pression pour que les leurs soient libérés par les autorités légitimes qui les avaient arrêtés. Et donc, j'étais allé voir un petit peu les tenants des deux clans et j'étais allé voir notamment le chef du détachement de gendarmerie localement qui avait fait ses études à Melun en France et qui jurait que par l'état de droit des valeurs quand même relativement occidentales qui étaient catholiques, etc. Qui le revendiquait et qui disait c'est pas possible de faire ça dans un état de droit. Et puis après, j'étais allé discuter avec les manifestants qui, eux, me disaient bah, nous, c'est œil pour œil, dent pour dent. On se fait voler notre bétail ou notre récolte. Bah, on arrête les voleurs et puis on leur inflige nos traitements. Alors j'ai essayé d'en savoir un petit peu plus. Et c'est là où la position un peu particulière que j'avais, c'est-à-dire de travailler pour un journal burkinabé, mais en tant que blanc, du coup, je me retrouvais dans des situations où normalement un blanc ne se retrouve pas trop, etc. Donc, il m'avait dit cette phrase qui m'avait marqué, il m'avait dit « Ah, t'es blanc, tu peux pas comprendre, donc on va tout expliquer. » Et là, ils reviennent sur les fondements et du coup sur les fondements de leur engagement et m'explique que s'ils arrêtent un voleur, ils leur font boire la potion sacrée de l'Afrique et qu'ils les soumettent à tout un tas de sévices, etc. Et puis que comme ça, s'ils récidivent, et ben en ayant bu la potion, ils meurent sur le coup. Et du coup, il me disait qu'ils juraient sur les fétiches, etc. On voit là les croyances traditionnelles d'autres valeurs, en fait, d'autres référentiels. Et donc, ça illustre ce cas-là, vraiment, la fracture entre les élites citadines la majorité
qui existe vraiment dans la réalité à beaucoup de niveaux d'ailleurs là ça a été vraiment ça existe tout le temps, il y a toutes ces croyances traditionnelles qui s'entrechoquent avec l'état de droit comme on dit et du coup c'est
effectivement difficile. Et là pour la situation sécuritaire bah aussi ces villes qui sont un petit peu préservées des attaques et puis la population qui l'a subi de plein fouet et puis du coup qui se réfugie plutôt dans les villes maintenant avec ce 1,5 million de déplacés internes qui déstabilisent complètement le pays, les écoles fermé, etc.
Thibaut Bluy, vous le savez, vous aurez l'occasion de vous exprimer à nouveau là, directement devant votre public au Gazette Café.
Bientôt.
Le jeudi le 17 février. De 14h30 à 17h30.
Oui, là, il y aura du temps en plus.
Il va y avoir un peu plus de temps. On ne sera pas marqué par le bing-bang, le bing-bang, l'arrêt radiophonique. Thibaut Bluy, on vous retrouve donc jeudi 17 février à Montpellier au Gazette Café Rue Levat avec Marie-Claude. Nous y serons, nous aussi. Il y aura aussi Edouard Ouédraogo en visio, ou en tout cas enregistré.
Arnaud Ouédraogo.
Arnaud,
homonyme.
Beaucoup
plus jeune.
Exactement. Arnaud Ouédraogo qui interviendra du Burkina.
Mais peut-être qu'Edouard, on lui enverra aussi la vidéo et tout.
Donc nous verrons. entend ça tout à l'heure. Et voilà, pour l'heure, on se sépare en musique.
Mais oui, malheureusement, et on dit merci à la technique, là, voilà.
À Eric, notre stagiaire en technique, à William. On annonce tout de suite la musique.
Alors, vous pouvez quand même nous podcaster hein, sur le site.
Podcaster radiofmplus.org.
Voilà, l'Afrique dans tous ses états. Et on se quitte en musique avec ATT et Sissoko. Awa Sitao. C'est un superbe morceau aussi, avec une très belle voix, des très belles voix. Merci.
Merci, à très bientôt.
Awa Sitao.
Awa, awa, kudou la gare la mer. Nala konye monso mi la diya.
Amadou Jeli Lame, Nala douye kiba mison, kiti bana.
Moussouya ye nan ninye, Togo ye nan ninye, Nala yodi moussou mima, Moussouya do tafara, Folo ye mounye, Maloya ya folo ye. Sabadi ye fila ye, mounyounye sabayye, yere loye naninye, togudu damfara, nala yoke mounso minye, yika mounso yado damfara.